Chapitre 5. Bien que Victor fît des stations de plus en plus longues dans le bureau de Marichette, il ne voyait pas que ses affaires en fussent plus avancées en rien. Avec les mauvais jours, les travaux de construction avaient repris partout, car c'était l'habitude de Belloc de les ralentir autant que possible pendant l'été. En été, ses chevaux étaient employés à voiturer les baigneurs. En hiver, il était au transport des matériaux et au terrassement. De cette façon, il n'y avait pas pour eux de morte saison et leurs propriétaires n'étaient pas forcés de les revendre à l'automne en perdant sur le prix d'achat payé au printemps. Paulin, étant chargé de la surveillance de ses travaux, restait au bureau beaucoup moins longtemps qu'en août ou en septembre et en son absence, Victor avait la place libre. Que n'osait-il abuser de cette liberté ? Mais il suffisait qu'il pût parler pour qu'aussitôt il se sentît incapable de rien dire. Et cependant, il était toujours préparé, et ce n'était pas ce qu'il devait dire qui l'embarrassait, c'était sa façon de le dire. Seul dans sa chambre, où les bottes de Mélilo qui emplissaient son armoire et sa commode lui donnaient assez souvent mal à la tête, il adressait à la Marichette imaginaire qu'il voyait devant lui les discours les plus passionnés et les plus persuasifs. Et quand il s'arrêtait pour réfléchir un peu au milieu de ses éjaculations oratoires, il était bien obligé de reconnaître sans aucune vanité que tout cela était vraiment irrésistible. Il faudrait qu'elle fût de glace pour n'en être pas touchée et subjuguée. Et elle n'était pas de glace, il en était certain. Pour juger les femmes, il avait des théories tout aussi sûres que pour les émouvoir. Quand on avait ses lèvres en arc, cette bouche rose, ses yeux profonds, ses sourcils épais, cette nuque charnue, on n'était pas de glace. Ou bien alors, les remarques qu'il avait faites dans ses lectures ne signifiaient rien, et cela, il ne pouvait pas l'admettre. Qu'il débitât à Marichette le quart seulement de ce qu'il se répétait à lui tout seul, avec le même élan, le même feu, les mêmes yeux flamboyants, la même voix vibrante, et elle se jetait dans ses bras. Quelle félicité alors ! Il aimait, il était aimé. Il ne rougissait plus de son isolement. Ses camarades ne se moqueraient plus de lui. Et, tout en suivant son rêve, il s'habillait coquettement, se regardant dans sa glace, étudiant le nœud de sa cravate, tirant ses manchettes, faisant prendre certains plis à sa redingote. Ce serait pour ce jour-là, si une bonne occasion se présentait. Et il attendait cette occasion, tout en se répétant un de ses discours. Paulin partait pour surveiller ses travaux, Belloc s'en allait, ils étaient seuls dans la maison. Alors, il arrivait dans le bureau de Marichette. Presque toujours, il avait préparé une entrée en matière, insignifiante à la vérité, mais ne faut-il pas commencer par quelque chose ? Vous n'avez pas besoin de moi, mademoiselle. Vous ne voulez pas que je vous aide ? Les premières fois, elle avait été touchée de cette attention, mais à la longue, en entendant presque tous les jours la même phrase, elle s'était blasée, se disant que c'était sans doute une politesse banale, une marque de complaisance qui n'engageait à rien. « Merci, » disait-elle. Et elle continuait son travail en le regardant de temps en temps vivement, à la dérobée, toute surprise qu'il ne rentra pas dans son bureau. « Quel flâneur !» se disait-elle. Car elle ne voyait qu'un besoin de flânerie dans l'habitude qu'il avait prise de s'installer près d'elle, aussitôt que son oncle et que Paulin étaient sortis. Bien des fois, il est vrai, les regards langoureux de Victor, autant que ses soupirs, l'avaient étonnée, mais sans qu'elle s'appliquât à en deviner la cause. Que lui importait ? Il pouvait être ennuyeux, il n'était pas insupportable. En effet, il se contentait de se promener en long et en large, et quand il paraissait fatigué de tourner ainsi comme une bête dans sa cage, il venait s'appuyer sur la table où elle travaillait, et il restait là. C'était le moment attendu, l'occasion cherchée. Il n'avait qu'à parler. C'était bien simple, personne ne les dérangerait, il irait jusqu'au bout. Et il se disait, il se répétait qu'il devait aller jusqu'au bout. Seulement, pour cela, il fallait commencer, et justement, il ne pouvait pas commencer. Tout ce qu'il avait à dire était prêt dans sa tête, bien en ordre, classé, divisé. Une fois qu'il serait en train, il n'aurait qu'à suivre. Mais il fallait se mettre en train, et il ne s'y mettait pas. à trois pas de Marichette, la tenant sous ses yeux, il s'encourageait à parler. « va donc, lâche » murmurait-il. Mais sa gorge se serrait, son regard se troublait, la sueur lui mouillait les mains, et instantanément, ce qu'il avait si laborieusement préparé lui échappait. Son premier mot même, dont il était si sûr et qu'il s'était tant de fois répété, il ne le retrouvait plus. Alors des mouvements de rage le prenaient, et sortant violemment, sans qu'elle sût ce qui lui arrivait à l'improviste, il allait s'enfermer dans son bureau, furieux contre lui-même et désespéré. « Est-ce assez stupide ?» Si encore il avait été en présence d'une femme imposante, par la position, l'âge, la beauté, il se serait trouvé des excuses. Mais cette jeune fille était presque une petite fille, de position elle n'en avait aucune, et par sa beauté gracieuse et aimable, elle n'avait absolument rien de décourageant. C'était le sourire que provoquait son doux regard, ce n'était ni l'inquiétude ni l'embarras. Et cependant, après s'y être pris 10 fois, 20 fois, il lui fallut bien reconnaître qu'il ne pourrait jamais vaincre cette sorte de syncope qui le paralysait et l'anéantissait au moment décisif. Toutes les excitations, toutes les objurgations, tous les raisonnements n'y faisaient et n'y feraient rien, il était ainsi. Si encore elle l'encourageait, qu'elle lui dît un mot seulement, qu'elle lui fît un signe, qu'elle le regarda d'une certaine façon, et assurément il se lancerait. Mais non, il était impossible de se montrer plus à son aise, d'être moins ému, moins troublé, toujours égal dans son humeur, toujours la même dans son attitude, comme si elle ne devinait rien. Et cela, pendant qu'il la brûlait de ses regards, et qu'il se tenait devant elle, tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, changeant de pose à chaque minute, comme s'il avait été sur des charbons. Certainement, les vieilles femmes étaient bien désagréables, ils ne le savaient que trop, mais sous d'autres rapports, les jeunes, les trop jeunes, étaient bien ennuyeuses. Était-il situation plus pitoyable que la sienne? Il se faisait honte à lui-même, et ses camarades se moquaient de lui. C'était 2 fois par semaine qu'ils se réunissaient, le dimanche et le jeudi soir, dans un petit café de la route de Criquefleur, dont l'unique avantage, grand pour plusieurs d'entre eux sévèrement tenus, était d'avoir une entrée sur les champs par laquelle on pouvait se glisser sans être vu de personne, et dans toutes ces réunions, on ne parlait que de sa nouvelle conquête. « Quelle tête Victor aura-t-il ce soir ? Il a l'air bien ennuyé depuis quelque temps. » Ses affaires vont mal. A-t-il seulement des affaires? Mais ce doute, qui, quelques mois auparavant, eût été universellement accepté, n'était plus admis par tous. Ce n'était pas pour rien, à coup sûr, qu'il avait adopté cette nouvelle tenue, ruineuse pour lui. Comment vont les amours? La veuve aux pieds gelés était-elle inconsolable? La nouvelle a-t-elle aussi les pieds froids? À côté des questionneurs, il y avait les douteurs. Il n'y a pas de nouvelles. S'il y en avait une, Victor ne nous montrerait pas cette mine de pleureur. Alors les amours ne vont pas. Rien ne pouvait le blesser autant, l'humilier, l'enrager, qu'on crut que les amours n'allaient pas, comme disaient ses camarades. Aussi, au bout de 3 ou 4 de ces soirées, où on lui avait monté une scie de la mine de pleureur, avait-il cru devoir prendre une mine de vainqueur. Au lieu d'arriver la tête basse, le front soucieux, les yeux chagrins, on l'avait vu paraître superbe, confiant, fier et satisfait. Ne fallait-il pas faire contre mauvaise fortune bon cœur? Parmi les divers genres de curiosité dont l'humanité est douée, il y en a un d'un genre spécial qu'on peut appeler la curiosité des petites villes et qui consiste à apprendre ce que fait le voisin, comment il vit, ce qu'il dit, ce qu'il reçoit, ce qu'il dépense, ce qu'il doit, ce qu'il pense, ce qu'il mange, qui il voit et surtout, qui il aime. C'est dans les petites villes qu'il n'est pas besoin de lire des romans, ce qu'on arrange ou qu'on observe sur ses voisins suffisent à la consommation des plus affamés. Puisque Victor se trahissait, c'était donc qu'il avait vraiment des affaires. Après tout, pourquoi pas ? N'était-il pas un homme comme un autre, malgré ses prétentions et ses ridicules? Alors on avait cherché avec qui il pouvait avoir des affaires, et il n'avait fallu ni une grande finesse, ni une sagacité extraordinaire pour trouver que ce ne pouvait être qu'avec Marichette. Il n'allait plus chez la veuve aux pieds gelés, la seule maîtresse vraie qu'on lui connût. Où allait-il ? Les recherches avaient été d'autant plus longues et d'autant plus difficiles qu'il n'allait chez personne et que la seule femme qu'il vit était Marichette. C'était donc la petite cousine de Belloc aîné. Quand on lui fit part de cette découverte, il se trouva fort embarrassé. Comment dire non sans compromettre son prestige ? Comment dire oui sans compromettre la réputation de la jeune fille ? Croyez ce que vous voudrez, dit-il. C'était beaucoup. Mais quoi, si elle n'était pas sa maîtresse aujourd'hui, elle la serait demain.